Bonjour à toutes et tous, c'est Rencontre avec les avocats du barreau de Bourges. Et aujourd'hui, nous accueillons maître Françoise Gamard. Bonsoir maître.
Bonjour.
Et allez, on ne va pas parler de la Covid-19, tout le monde le fait, mais il y a une ambiance comme ça en ce moment de morbidité qui nous a amené un peu à parler de la fin de vie, de toutes ces choses pas très agréables, mais qui sont aussi des problèmes de droit et où on bute des fois sur des situations tout à fait dramatiques. Alors, donc, eh bien, vous m'aviez parlé de votre expérience professionnelle qui vous avait un petit peu amené à vous intéresser à ce sujet.
Tout à fait. Alors, bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aborde un thème complexe, mais auquel nous sommes tous, hélas, confrontés, que ce soit pour des gens qui sont proches de nous ou pour nous-mêmes, hein, parce que la fin de vie, on sait très bien que on souhaite, en principe, vivre le plus longtemps, mais qu'à un moment donné, notre enveloppe charnelle s'abîme, et à un moment ou un autre, il y a au moins une certitude, c'est que l'on va tous mourir. Et c'est vrai que la période actuelle est empreinte, en tout cas c'est l'idée clé qui m'anime aujourd'hui, depuis le début de cette année 2020, ça ne veut pas dire bien sûr qu'on n'en avait pas conscience au préalable, mais depuis cette année 2020, avec le premier confinement, le deuxième confinement et toutes les conséquences que cela a entraînées, cette morbidité ambiante, ces interdictions d'aller venir, toutes les mesures qui ont pu être prises font que nous vivons sous cloche depuis bientôt un an et demi. Et que forcément, les gens continuent, non seulement ils meurent de la Covid, leur décès est précipité par la Covid lorsque ces personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, l'attrapent et sont transportées à l'hôpital et décèdent soit à l'hôpital ou soit des suites de la Covid. Mais ça pose X difficultés et ça pose aussi des difficultés notamment, en particulier, pour les personnes qui ont un âge avancé et qui se retrouvent, selon les circonstances, soit avec leur famille, soit sans famille, avec du patrimoine ou sans patrimoine. Et que faire de tout cela? Parce que même si on peut mourir brutalement, il y a généralement quand même des obsèques qui sont organisées. Et là aussi, c'est un sujet très vaste, parce que selon que les obsèques, on les a déjà imaginées par la personne qui va décéder, soit que, brutalement, les tiers se retrouvent confrontés à l'organisation d'obsèques, plus ou moins. Mais que faire? Que faire, quelles ont été les volontés de la personne décédée. Bref, toutes sortes de sujets, je dirais, auxquels la famille ou les proches se retrouvent confrontés. Et il faut trouver des solutions. Alors, quand il y a eu des dispositions, je dirais, testamentaires notamment, qui ont été prises par le mourant avant son décès, c'est plus facile. Quand il n'y en a pas eu, ça l'est moins. Et après, ce sont des questions d'espèces, questions de contexte, de vie et autres.
En fait, on ne meurt pas brutalement. La mort dure forcément un petit moment, parce que entre le moment où le décès arrive, le moment où il est constaté, le moment où il est officiel, le moment où la famille est prévenue, le moment où les personnes sont inhumées ou incinérées ou autres, ça prend du temps, ça.
Beaucoup de temps. Oui, enfin, oui. Beaucoup, ça dépend
pas
à
beaucoup,
partir de quel... Oui,
voilà.
Selon comment l'on se place. Mais si vous voulez, ça occupe énormément. C'est
voilà.
Vrai que ça occupe énormément. On peut mourir brutalement si on est victime d'un accident de la circulation ou tout, bien sûr, tout dépend comment le décès intervient. Mais il est vrai que pour constater le décès, etc., selon que la personne se trouve en milieu hospitalier ou médical approprié, selon que c'est vrai qu'il y a des formalités qui sont importantes, et tout ça doit être pris en compte, ne serait-ce que par rapport aux proches, hein, qui ne font pas ce qu'ils veulent d'une personne qui est décédée et dont elle s'occupe ou voudrait s'occuper par rapport aux obsèques.
Alors, en réalité, là, on parle d'une époque un peu morbide comme ça, mais on subit davantage des privations de liberté que on subirait la peur de mourir. Bon, on sait bien que de toute façon, mourir de ça ou d'autre chose, c'est pas si grave que ça. Mais la privation de liberté à laquelle on est soumis, c'est peut-être ça qui fait l'angoisse du moment.
Qui fait l'angoisse et puis qui est une atteinte quand même à ces mêmes libertés.
Et alors là, c'est un problème de droit, là, pour le coup.
Alors, c'est un problème de droit. Alors, bon, il y a plusieurs hypothèses, naturellement, qui peuvent être envisagées. Et si vous le voulez bien, moi, j'ai été confrontée dans cette période, on dit la loi des séries, mais il est évident que ça peut exister. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le constater. J'ai eu deux ou trois cas à traiter, s'agissant de personnes qui n'étaient pas jeunes, qui avaient un âge avancé, et plusieurs hypothèses, donc dans les deux hypothèses dont je vais parler. Il y avait la première hypothèse d'un monsieur qui avait quasiment plus de 80 ans, mais quelqu'un qui, sur le plan cérébral, qui, sur le plan de ses facultés, était encore à même de vivre chez lui, avec naturellement l'aide de prestations matérielles telles que soins d'infirmier par rapport à son traitement médical, parce que quand on a un âge avancé, forcément, même si on a toute sa tête encore, il y a des faiblesses, hein, le corps vieillit et il y a des fois des maladies, du cholestérol ou d'autres choses qui font que on est obligé d'avoir un traitement médicamenteux. Donc cette personne dont je vous parle vivait chez elle, avait toute l'infrastructure, oserais-je dire, par rapport à ses courses, par rapport à ses aides ménagères et autres, et il vivait très bien, il vit encore très bien, et avec, bien sûr, la seule faiblesse, enfin la seule, peut-être pas la seule, mais en tout cas une faiblesse notoire, il devenait un peu sourd. Alors bon, il avait ses appareils, etc. Mais je veux dire que la personne en question pouvait vivre seule chez elle. Et puis,
ça, c'est ce qu'on appelle l'assistance à domicile.
L'assistance à domicile,
c'est
alors,
le rêve de
beaucoup de personnes. Voilà. Mais là aussi, il faut savoir quand même que, en France en tout cas, il y a toutes sortes de possibilités, faut-il les connaître, mais quand on ne les connaît pas, on peut aussi recourir à l'assistante sociale du secteur du domicile pour voir comment les choses peuvent s'organiser. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir recours à des aides ménagères, à des soins médicaux par une infirmière, et puis éventuellement même par... mais là aussi, c'est une question de coût financier, si on a peur quand on vit seul de rester, d'avoir un malaise et d'avoir besoin de d'aide, hein, que ça soit en plein jour ou la nuit d'ailleurs, on peut se faire assister, vous savez, par une téléassistance, par soit une montre, par soit un petit boîtier que l'on porte 24 heures sur 24. Voilà. Qui fait penser un petit peu d'ailleurs aux bracelets électroniques des personnes qui sont en détention mais sous un régime contrôlé.
Ah, mais l'électronique est partout.
L'électronique est partout. Et donc, il existe quand même de multiples... Enfin, multiples, en tout cas un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place pour aider une personne qui a encore la capacité personnelle de vivre seule, mais en ayant besoin d'être aidée malgré tout, et secourue si besoin, et qui peut rester chez elle. Donc, si vous voulez, c'est le souhait en général pas tout le temps, mais généralement, il y a beaucoup de personnes qui vieillissent, qui souhaitent, lorsqu'elles ont la possibilité d'avoir une maison ou un appartement qu'elles affectionnent, enfin en tout cas dans lequel elles souhaitent rester, les gens n'ont pas forcément envie de partir de leur domicile. Donc quand ils peuvent y rester, bah, pourquoi pas, hein, à condition bien sûr qu'un certain nombre de précautions soient prises. Alors le cas dont je vous parle, je reviens...
Oui, tout va bien pour l'instant. Alors.
Tout va bien. Voilà. Alors, on va dire que la chose incongrue qui va se produire et à la suite de quoi j'ai été saisie, c'est le fait que cette personne a deux enfants qui ne vivent pas au même endroit, pas dans le même département que leur père. Et cette personne, mon client, qui est devenu mon client, a du patrimoine. Alors, il peut, avec l'aide de son banquier, etc., gérer son patrimoine. Mais voilà que mon brave client a eu l'idée saugrenue de vouloir continuer à tondre sa pelouse, une grande pelouse, puisque sa maison est un peu conséquente. Et alors, il a acheté une tondeuse un peu améliorée, super tondeuse, avec siège, comme on en voit beaucoup maintenant, quand il y a une grande superficie à couper. Et alors, une dépense un petit peu, je dirais, pas somptuaire, mais en tout cas, qui a été considérée comme telle par l'un de ses enfants. Et alors, il y avait eu un autre événement, mon client avait été démarché quelques mois auparavant par quelqu'un à domicile et le même enfant s'était ému en se disant « Mais voilà, est-ce qu'on va pas abuser de mon père et est-ce que mon père ne va pas faire des dépenses inconsidérées ?» Ce qui part bien sûr d'une préoccupation qui est tout à fait louable, en se disant peut-être aussi, n'étant pas sur place, que la personne pouvait être escroquée, qu'il y avait peut-être à intervenir. Alors c'est dans ces conditions que cet enfant a saisi le juge des tutelles d'une requête pour mettre son père sous tutelle. Et c'est à ce moment-là que la personne, mon client, m'a saisie pour l'assister devant le juge des tutelles, parce que c'est une procédure qui est très réglementée. Il y a une audition, c'est très légalisé, hein, c'est très, très organisé, c'est très formaliste hein, comme rédaction, comme mesures qui sont prévues par le législateur. Et donc, mon client m'a demandé de l'assister devant le juge. Il y a eu une audition, on n'appelle pas ça un interrogatoire c'est au pénal. Une audition par le juge qui, au regard du dossier, au regard des motifs pour lesquels il a été saisi, vérifie à travers les différentes questions qu'il peut poser, comment se trouve, dans quel état d'esprit, quelle situation pratique, quel est l'environnement dans lequel vit la personne, etc. Bref, un certain nombre de questions qui permettent de la situer, savoir si sur un plan matériel, il y a des choses à améliorer, si elle est en danger, et puis surtout sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, s'il y a une protection à mettre en œuvre, parce que la même personne ne peut plus se suffire à elle-même.
Alors dites-moi, ce juge-là, c'est un juge spécial, je sais quoi. C'est comme les juges des affaires familiales.
C'est un magistrat, c'est un magistrat du siège. Qui a fait l'école de la magistrature, tous ses collègues. Mais c'est un magistrat qui a un nouveau nom, on va dire, depuis la loi de programmation 2018-2022, qui réforme la justice, qui est un texte très, très vaste, très dense, qui touche à pas mal de dispositions de l'organisation judiciaire. Mais on l'appelle généralement le juge des contentieux de la protection. Juge des contentieux de la protection et qui exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Donc, vous voyez, on rallonge le titre. Les fonctions sont quasiment les mêmes que celles qui existent bien avant la loi de programmation. Mais voilà, on essaye peut-être d'adapter le titre avec les différentes peut-être améliorations ou autres qui ont été apportées.
Alors, en fait, tutelle, ça signifie un petit peu une privation de liberté. Protection, c'est quand même plus favorable, quoi. Ça doit être mieux perçu, je suppose.
Alors, la tutelle comprend la notion de protection. Hein. Alors, ça va sans dire qu'il y a aussi le corollaire, c'est le manque de liberté. Ah, une liberté contrôlée. Alors, il y a trois, il faut que vous, enfin, il faut savoir, il faut avoir à l'esprit qu'il y a trois régimes de protection selon l'état de la personne à protéger. On protège la personne contre les tiers et on la protège aussi contre elle-même. Parce que, on considère à la fois des critères liés à son état de santé, à son état physique. Il n'y a pas uniquement d'ailleurs que des problèmes d'ordre intellectuel ou mental. Hein. Il peut y avoir des personnes qui ont tout à fait toutes leurs capacités au niveau mental, mais qui, pour des raisons X ou Y, ont besoin d'être aidées dans la vie courante et d'être assistées de manière continue. À ce moment-là, on parle de tutelle. La tutelle, c'est le régime le plus fort, le plus protecteur, où là, la personne ne peut plus exercer elle-même ses propres droits. Elle est représentée dans les actes de la vie civile de manière continue. Et le tuteur, la tutelle, elle est organisée, elle est confiée, généralement, quand c'est possible, soit à une personne de l'entourage proche, à la famille, aux enfants. On s'adresse d'abord aux enfants, quand il y en a. Quand il n'y a pas d'enfants ou quand les enfants ne peuvent pas assumer cette charge, on s'adresse aux autres proches, aux autres membres de la famille. Et puis quand il n'y a pas de famille proche, il peut y avoir également d'autres membres, des amis ou d'autres organismes qui assument les rôles de tuteurs.
Ça marche dans tous les sens. Ça. C'est-à-dire que il y a la protection des personnes très âgées ou un peu handicapées ou choses comme ça, mais il y a aussi la protection des enfants, les enfants majeurs peuvent soudain être remis sous la tutelle de leurs parents.
Alors, leurs parents, bien sûr, s'ils exercent cette fonction de tuteur, j'ai le cas actuellement d'un dossier où la personne, elle est en EHPAD, c'est un monsieur qui a une fille, il y a deux filles, et là, l'autre fille n'a pas voulu se préoccuper de cela. Il y a des biens, il y a la gestion de biens immeubles à s'occuper, et donc ma cliente a accepté cette fonction de tutrice, qui est une fonction qui est lourde, parce que, et c'est heureux, mais il y a un contrôle du juge des tutelles. Et d'abord, le tuteur est nommé pour une certaine durée, et normalement, pour la durée qui est prévue par le jugement, qui prévoit la durée de la tutelle, hein, du régime de protection, et puis ce même tuteur, qui peut être confié bien sûr à un homme ou à une femme, doit rendre compte au juge des tutelles par un rapport, généralement annuel, pour donner des explications par rapport à sa gestion, sachant que le juge des tutelles peut toujours intervenir à tout moment, et surtout à l'occasion, quand il y a des actes de disposition à réaliser, le juge des tutelles contrôle ce qui est fait.
Alors en fait, la personne est représentée.
Elle est représentée.
Elle n'est pas...
Elle ne peut pas passer des actes toute seule. Elle a perdu son autonomie, sa liberté sur le plan juridique.
C'est plutôt ça, oui.
C'est ça. Et si par aventure, il advenait qu'elle signe, par exemple, un acte d'acquisition, alors qu'elle est mise sous un régime de tutelle, et c'est un cas d'école, mais imaginez que le notaire... c'est pratiquement un cas d'école, parce que c'est quasiment impossible en pratique, mais que cette personne placée sous un régime de protection de tutelle signe par exemple un acte d'achat immobilier, eh bien cet acte pourrait être annulé.
Voilà. Mais même sans aller jusque-là, simplement acheter un véhicule, une voiture, prenant un crédit...
On ne peut pas.
On peut pas.
Mais... Quand on est sous tutelle, on ne peut pas.
Ben oui, on ne peut pas. Voilà. Mais est-ce que le marchand de voitures, est-ce que le banquier peut savoir, lui ?
Alors, généralement, si vous voulez, pour les actes aussi importants, on demande, en principe, il y a une façon de savoir si oui ou non il y a lieu de se méfier, et de savoir aussi quel est le degré d'autonomie juridique de la personne qui contracte, hein, c'est de demander la délivrance l'occurrence d'une copie intégrale d'un acte de naissance, et normalement, en marge de l'acte de naissance, une personne est mise sous un régime de protection, c'est indiqué. Hein, c'est RC, c'était marqué comme cela, il y a peut-être une innovation, mais en tout cas, et ça allume les clignotants, si vous voulez, et là, après, c'est à la personne qui est soit le vendeur, soit exerce donc une opération marchande ou autre, de se renseigner. Hein,
Le casier judiciaire, c'est le casier...
Alors, le casier judiciaire, une personne ne peut pas... le casier judiciaire ne peut pas être demandé par n'importe qui. Hein.
Non.
Même l'avocat ne peut pas demander le casier judiciaire comme ça. Il le demande si il y a un dossier qui est ouvert, par exemple... c'est un aparté ce que je vous dis là, mais on est chargé, par exemple, quelqu'un nous demande d'assurer sa défense devant le tribunal correctionnel, on va aller étudier le dossier pénal et on aura le casier judiciaire. Mais si, par exemple, moi, je suis l'adversaire de cette personne, j'ai été escroqué, tant qu'il n'y aura pas une procédure pénale qui aura été entamée, je ne pourrai pas avoir accès au casier judiciaire de mon adversaire.
Hein. Bien sûr. La tutelle, donc, c'est un jugement.
Toujours par un jugement.
C'est un jugement motivé et détaillé.
Et détaillé, dans la durée limitée. Et,
Il n'y a pas de tutelle exactement pareille.
La tutelle, elle existe, si vous voulez. Après, elle peut exister... pour différents motifs, hein, soit parce qu'il y a une incapacité, des difficultés.
Oui, c'est toujours totalement adapté à la personne. Hein.
Toujours.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est toujours. On tient compte de la personne et des éléments qui font qu'elle ne peut plus se suffire à elle-même.
D'accord.
Hein, ou qu'elle peut aussi être l'objet de. Elle peut être victime aussi. Hein. Alors, donc c'est pour la protéger aussi des tiers.
Oui,
hein.
Bien sûr, oui. Alors, ce jugement de tutelle fait suite à une sorte d'enquête. Le juge procède à des auditions, j'ai compris. Ça prend un certain temps. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là?
Ça peut prendre un certain temps entre la saisine du juge. La première chose qui se passe, déjà, c'est sous la houlette du procureur de la République. Hein. Y a un filtre qui se fait. Le procureur est avisé. Il travaille en concours avec le juge des tutelles. Et au regard des éléments qui constituent la base de la saisine du juge, il va y avoir d'abord, on ne peut pas mettre sous tutelle quelqu'un sans que cette personne ait été entendue, examinée par un médecin spécialiste dont le nom figure sur une liste qui est préétablie, donc par un médecin psychiatre, pour voir quel est le niveau intellectuel, quelles sont les capacités intellectuelles de cette personne. Est-ce qu'elle est apte à comprendre les choses? Est-ce qu'elle a des difficultés? Est-ce qu'il faut l'aider, etc. Et puis après, il y a bien sûr les éléments d'ordre physique, dans quel état de santé se trouve la personne sur le plan corporel, etc., etc. Donc c'est une étude assez importante, assez longue, qui prend le temps qu'il faut, parce que les personnes à mettre sous un régime de protection ne sont pas toujours entourées d'autres personnes qui résident dans le même département. Donc des fois, le juge des tutelles a recours à l'aide d'autres collègues. La personne qui a demandé l'ouverture d'une tutelle pour un proche habite dans un autre département.
C'est ça qu'on appelle une commission rogatoire.
C'est-à-dire que le juge, par exemple le juge de Bourges, demande pour une personne qui habite dans le département du Cher et qu'une tierce personne veut faire mettre sous tutelle, la personne qui a demandé la tutelle habite par exemple le sud de la France, eh bien le juge de Bourges va demander à son homologue de Grasse ou d'ailleurs d'entendre de façon plus précise demandeur.
Et ça, j'imagine que ça doit prendre un petit peu de temps.
Ça prend du temps, ça prend des mois.
Il peut y avoir urgence. Qu'est-ce qui se passe pendant la durée?
Tout dépend aussi de la façon, encore une fois, on revient toujours à la base, comment est-ce que le dossier va s'ouvrir? Si la personne dont je vous parlais, mon cas, là, de ce monsieur, ce brave monsieur, un peu âgé, un
avec
petit
sa tondeuse.
Peu, avec sa tondeuse, et qui comprenait pas parce que ses enfants ne lui avaient même pas dit ce qui allait se passer. Je trouvais que c'est, pour lui, là, il a ressenti ça un peu comme une traîtrise, hein. Lui, il n'y a pas eu de mesures urgentes qui ont été décidées, puisqu'il avait la capacité de, au moins provisoirement, de se suffire à lui-même. En ayant quand même démontré au juge que, précisément, des choses détaillées avaient été mises en place. Mais il arrive parfois que les choses soient beaucoup plus dramatiques. J'ai eu le cas notamment d'une dame qui vivait en tant que retraitée, hein, plus de 80 ans, qui n'avait pas de famille, qui très peu d'amis, avec un patrimoine quand même, non négligeable, et qui louait un logement, et elle s'est retrouvée début 2020 dans l'obligation d'aller à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, les choses se sont mal passées parce que, évidemment, compte tenu, et on revient à la Covid, elle a attrapé la Covid, et elle est restée à l'hôpital, plus d'un an. Et si vous voulez, avant cela, avant la fin de la première année, eh bien, dans ces cas-là, ce ne sont pas les proches de la famille qui sont intervenus, mais c'est, comme ça a toujours été depuis des années, ce sont les organismes administratifs, hein, à partir d'un travail qui est réalisé, bien sûr, par les soignants, par l'équipe médicale, par aussi les services administratifs, quand ils voient qu'une personne, selon sa situation, est seule, etc., saisissent le juge quand ils estiment que la situation fait que la personne ne peut plus s'occuper de ses propres affaires. Donc là, le juge est saisi, et le juge va, dans l'attente qu'un jugement, au fond, se prononçant soit sur le régime de la tutelle ou sous un autre régime de protection, va nommer ce qu'on appelle un mandataire spécial, qui est souvent un organisme de tutelle, et qui est chargé donc provisoirement, dans l'attente de faire un peu l'inventaire de ce que possède la personne à protéger, l'inventaire de ses biens, d'attendre que toutes les investigations sur le plan médical soient réalisées, et va administrer, finalement, quand il y a des choses à administrer, la situation patrimoniale de la personne à protéger. Alors, il peut y avoir des biens, des immeubles, etc., mais il peut y avoir aussi pas grand-chose. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la personne qui se retrouve dans le cas, par exemple, que je vous cite, elle se trouve totalement démunie provisoirement. Et les personnes réagissent très très mal, parce que même si c'est pour les protéger, elles considèrent cela comme une privation atroce de leur liberté, et on les infantilise. On les infantilise peut-être,
oui, c'est vrai,
dans le bon sens du terme, enfin, pas dans le bon sens du terme, c'est fait pour les aider, en principe, au moins c'est l'idée de base, mais ces personnes le prennent très très mal, et elles ont l'impression vraiment d'être totalement démunies, et de revenir en enfance, mais une enfance contrainte, et où on ne tient plus compte de leur avis et de leur identité. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'elles, mais qu'elles n'ont même plus le droit de s'occuper de leur trésorerie. Voilà, il faut qu'elles demandent à chaque fois des choses. Et ça, c'est ce qui fait toute la complication de tous les régimes de protection quand il y a l'intervention d'un organisme tiers, où parfois les choses ne se passent pas très très bien au niveau des échanges.
Quand même, là, au vu des exemples que vous me donnez, on se dit que c'est surtout fait pour peut-être sauvegarder la personne, mais aussi surtout sauvegarder son patrimoine.
C'est pour sauvegarder son patrimoine, mais enfin pour le sauvegarder, pour faire en sorte aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que à un moment ou à un autre, et comme nous disions à titre d'introduction, un jour ou l'autre, c'est vrai que la personne va décéder, et il faut savoir comment les frais d'obsèques et autres, comment qui va les payer, et comment est-ce que ça va être géré. Et ça, c'est fait partie aussi lorsqu'il y a un inventaire par rapport aux revenus. D'abord, les revenus, quand il y a l'inventaire qui est réalisé, il faut d'abord savoir si la personne bénéficie de revenus suffisants pour, si elle se trouve momentanément à l'hôpital, par la suite être placée dans un établissement spécialisé. Parce que chacun sait que l'EHPAD ou autre, c'est quand même très coûteux. quel que soit l'établissement. Il y a aussi des degrés de standing dans ce genre d'établissement, mais il y a un coût. Il y a des personnes qui n'ont pas des retraites suffisantes non plus pour pouvoir être accueillies dans un EHPAD. Alors à ce moment-là, il y a l'aide médicale hein, qui intervient, parce qu'il y a quand même des aides qui peuvent être bénéficiées à des personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources. Mais je veux dire que, vous voyez, on fait un peu on fait l'inventaire de tout ce qu'elle possède. Elle peut ne pas avoir de biens immobiliers, mais elle peut aussi avoir la personne, dans le meilleur des cas, elle peut avoir des biens fongibles, elle peut avoir de la trésorerie, elle peut avoir des placements, des avoirs. Donc, dans ces cas-là, qui sont les meilleurs cas, le mandataire spécial qui est nommé provisoirement par le juge des tutelles, eh bien, administre les comptes de la personne, mais la même personne, si par exemple elle est à l'hôpital ou si elle est déjà placée en EHPAD, ne peut pas disposer librement, même si elle n'est pas encore placée sous un régime de curatelle ou de tutelle. Il faut quand même avoir des contacts avec le mandataire spécial, et le mandataire spécial, ça se passe pas toujours très très bien, c'est compliqué, les gens ne vivent pas cela, de toute façon vivent rarement cela de manière idéale.
Alors, la curatelle, quelle est la différence entre la curatelle et la tutelle? Curatelle, on a l'impression qu'il y a un soin.
Alors, la curatelle, la tutelle, je reprends, la tutelle, la personne qui est mise sous tutelle perd totalement sa capacité juridique. C'est quelqu'un qui la représente dans tous les actes de la vie civile. La curatelle, il y a deux sortes de curatelle. Alors, c'est un système un petit peu moins fort, hein. On baisse d'un échelon, si j'ose dire. La personne qui est mise sous curatelle ne perd pas totalement la capacité de donner son avis, hein. Mais elle ne peut faire un acte juridique important qu'avec le concours du curateur ou de la curatrice. C'est-à-dire qu'elle doit être assistée. C'est plus représentée, mais assistée. Par exemple, la personne veut acheter un bien, ou la personne veut louer, ou la personne... il y a des actes importants. Elle doit être assistée du curateur, sous le contrôle, bien sûr, du juge des tutelles. Et on peut d'ailleurs être sous curatelle ou sous tutelle sans forcément être dans un établissement hospitalier ou sous traitement.
Il y a des gens jeunes des fois.
Il y a des gens jeunes qui peuvent avoir un régime de curatelle. Alors, il y a au sein même du système de la curatelle, il y a un distinguo à faire entre la curatelle simplifiée, qui est un régime un peu plus light, si on peut dire, et la curatelle renforcée. Alors, la curatelle renforcée, c'est vraiment, c'est là où je vous parlais d'achat, de vente, la présence du curateur est beaucoup plus omnipotente, si on va dire, le recours au curateur est beaucoup plus important. La curatelle simple, c'est on peut faire des chèques soi-même, on peut faire les actes de la vie civile élémentaires, et c'est seulement si on démontre que la personne a pu être abusée, si l'acte on achète quelque chose de manière démesurée, en quantité trop importante ou autre, que a posteriori on demande à ce moment-là, devant le juge des tutelles, du fait même qu'il y a quand même malgré tout une certaine faiblesse, on demande à ce que les actes soient au pire annulés, ou alors si éventuellement ils portent préjudice à la personne que l'on veut protéger, peuvent être réduits en cas d'excès. Tout est une question d'espèce, si vous voulez. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la curatelle, elle se divise en curatelle simple, curatelle renforcée, et à la fois également le fait qu'une personne peut être sous un régime de curatelle à sa personne, mais il peut y avoir aussi une curatelle qui se cumule avec une curatelle au bien. C'est-à-dire qu'un curateur peut être nommé d'abord exclusivement pour s'occuper de la gestion, avec le concours de la personne protégée, mais de ses biens. Mais ça peut ne pas s'accompagner de la gestion de sa personne. Donc, oui, quand les deux sont réunis, c'est vrai qu'on se rapproche du régime de tutelle, encore que le régime de curatelle soit quand même plus simplifié, un peu plus souple que le régime de la tutelle, puisque dans la curatelle, la personne qui est mise sous curatelle a est là quand même, participe quand même, même si c'est sous contrôle, mais elle est quand même là.
D'accord. À la limite, elle n'a pas le droit d'acheter une tondeuse à gazon, mais elle a le droit de se marier, par exemple.
Elle a le droit de se marier, mais c'est, évidemment, il faut en aviser malgré tout le juge, mais une personne peut reconnaître un enfant, par exemple, faire une déclaration de naissance, etc.
Oui, c'est
ce qu'on appelle les actes personnels, si vous voulez, hein, les actes qui touchent véritablement au fond de la personne, qui touchent moins le patrimoine, mais qui sont des droits inhérents à l'être humain lorsqu'il est capable de les exercer. Mais là, ça ne veut pas dire non plus que le juge des tutelles n'est pas avisé. Hein. Mais si vous voulez, voilà, c'est à chaque fois en fonction de la personne, du cas traité, du contexte et de ce que souhaite faire la personne. Vous voyez ?
D'accord.
C'est...
Comment on sort d'une tutelle ?
On peut ne pas être d'accord. D'abord, la personne qui est mise sous tutelle sur la demande d'un tiers, hein, soit la demande d'un enfant ou même sur la demande du procureur, hein, peut très bien estimer qu'elle n'a pas à être mise sous tutelle et elle peut contester. Et elle peut aller devant la cour d'appel pour contester, naturellement, la décision du juge qui a été prise.
Ah oui, c'est un jugement, donc, qui peut être...
C'est un jugement qui est notifié et qui peut être contesté.
En appel, donc.
En appel. Mais... il faut quand même savoir et avoir à l'esprit que, à la base, il y a toujours un dossier. Alors, avec, je l'ai indiqué tout à l'heure, un certain nombre d'investigations hein, pour vérifier dans quel état se trouve la personne à protéger. Mais on peut aussi ne pas être d'accord hein, sur les résultats d'enquête qui ont pu être faits. Et c'est là aussi où quand on a recours, la personne estime qu'elle ne peut pas se débattre toute seule de tout cela. Elle peut avoir recours, elle peut, et je dirais même sans vouloir prêcher pour ma chapelle, mais je pense que c'est un domaine dans lequel les avocats ont leur place, parce que même si l'avocat n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, l'avocat peut d'abord être une aide précieuse, même sur un plan moral par rapport à la personne qui se retrouve dans une telle situation, mais l'avocat peut aussi mettre son grain de sel et dire, attention, moi je ne suis pas d'accord avec le rapport d'expertise psychiatrique qui a été fait, on peut le contester, on peut demander une contre-expertise, et puis je pense que dans tous les cas, la personne qui est auditionnée dans le cadre de l'enquête qui est faite préalable justement à l'application d'un régime de protection, au jugement, hein, il y a donc tout ce travail en amont qui est fait par le juge. Je pense qu'une personne qui se retrouve seule devant un juge, quelle que soit d'ailleurs l'affaire, mais c'est quand même beaucoup mieux d'être accompagné, d'être assisté. Et puis surtout, l'avocat peut aller consulter le dossier sur demande faite au juge. Hein, on n'a pas le droit d'aller consulter un dossier comme ça. Il faut bien sûr être avocat. D'autres personnes hein, qui sont proches de la personne à mettre sous protection peuvent aussi venir consulter le dossier. Mais faut-il qu'il démontre qu'il y a un intérêt légitime auprès du juge. Mais je veux dire, vous voyez, il y a quand même une étude de base qui est aussi protectrice des libertés, parce qu'on ne met pas sous un régime de protection, même si ça peut se faire de manière un peu drastique au départ, il y a quand même, après coup, un travail pour vérifier véritablement la situation de la personne en question.
D'accord. Et c'est un petit peu comme quand on condamne quelqu'un à la peine de prison. Il y a une durée, non ?
En principe, c'est une durée de 5 ans.
C'est
5 ans, ça peut être renouvelé. On ne peut pas mettre quelqu'un sous tutelle ou sous curatelle, comme ça, ad vitam aeternam. Hein.
Oui.
Et alors, vous me demandiez comment, tout à l'heure, un jugement peut être... peut rendre fin, hein, un jugement de mise sous tutelle ou de curatelle. Eh bien, ça peut être mis fin d'abord parce que si l'état de santé de la personne revient dans des conditions qui sont tout à fait normales, évidemment on peut demander une mainlevée. Hein. On peut demander aussi à tout moment au juge des modifications dans les conditions de prise en charge. On peut aussi demander le changement de tuteur ou de curateur, parce que ces missions de tuteur ou de curateur sont confiées généralement à des personnes qui sont proches, qui accepte aussi, parce que c'est une charge, je le rappelle.
Ben oui, une responsabilité.
Une responsabilité. Oui. Mais il peut y avoir aussi, quand c'est confié, par exemple, une famille n'accepte pas la charge, soit parce qu'elle n'habite pas dans le département de la personne à protéger, soit parce que les membres de la famille ne s'entendent pas entre elles. Donc, il faut bien arriver à trouver, à déterminer des fois des solutions dans l'intérêt de la personne à protéger. Donc, dans ces cas-là, quand personne n'accepte ou ne peut, parce qu'il y a, une discorde dans le milieu familial, et ça, c'est quand même une application assez fréquente, le juge des tutelles confie la fonction à un organisme tutélaire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'associations.
Oui, en général, ce sont des associations.
Ce sont des associations qui s'occupent, qui sont mandatées, qui sont désignées pour exercer la fonction de tuteur. Et là, ces mêmes associations sont sous la houlette du juge des tutelles, mais également du procureur de la République. Alors, ça peut arriver, en tout cas, sans que ce soit forcément une mauvaise gestion, mais si la personne protégée estime qu'elle n'est pas contente du travail de son tuteur ou de son curateur, généralement, c'est souvent le cas.
Oui.
Les personnes ont des difficultés parce que entre un travail qui n'est pas facile, il faut le reconnaître, pour ces associations tutélaires qui ont beaucoup de mesures à gérer
et qui ont peu de moyens finalement.
Et puis aussi parce que après c'est tout une question de personnes aussi, de temps, de personnes, de moyens, tout ça, ça se regroupe. Et il faut avouer, parce que c'est les réalités également de l'âge et des problèmes de santé. Et parfois, quand on vieillit, même assez fréquemment, on peut constater que le caractère peut devenir un petit peu plus aigri. On souffre, donc on devient peut-être moins patient. Donc c'est vrai qu'on demande beaucoup aussi parfois à la personne que l'on rencontre qui est censée être là pour venir s'occuper de vous, savoir quels sont vos besoins, etc. On peut estimer que la personne qui dépend de cet organisme tutélaire ne vient pas suffisamment, pas fréquemment, ou qu'elle n'accepte pas de donner l'autorisation de faire tel ou tel achat. Enfin bref, ce sont des contraintes qui sont mal vécues par les personnes qui sont mises sous régime de protection. Et il faut aussi dire que, parce que tout arrive dans ce monde, il y a aussi parfois des problèmes, de personnes. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, quand c'est possible, à le dire au juge et on peut demander un changement de tuteur ou de curateur.
Le juge, donc, peut interférer, mais l'avocat aussi peut se...
L'avocat, c'est l'avocat de la personne, généralement, à protéger, ou qui déjà est sous un régime de protection. Bien sûr que l'avocat a son rôle. Et je pense que compte tenu de l'évolution actuelle de la société, les gens vieillissent meurent de plus en plus tard.
Ils vieillissent
plus longtemps qu'avant, voilà. Et ce sont justement des questions qui se posent de manière omnipotente. Et je pense qu'il y a un travail humain, juridique bien sûr, parce que l'avocat, dans la limite de ses moyens juridiques, mais encore une fois, est la voix aussi de la personne qui lui a demandé de l'aider. Et puis, je pense que, sans d'ailleurs forcément être en contradiction avec ce que pense le juge des tutelles, on peut faire aussi un travail de concours. C'est-à-dire que si on est proche de sa cliente ou de son client, on peut parfois exprimer des choses que le juge peut ne pas percevoir à travers un dossier. Mais je pense que sans dire que c'est forcément une opposition, il peut y avoir une opposition, mais pas forcément une opposition. Le juge d'ailleurs, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai vécu à travers mon expérience professionnelle, il y a un juge actuellement à Bourges qui est très humain. Il y a deux juges qui s'occupent, qui font preuve d'humanité. Et après, là aussi, une question de personnalité. Mais ces juges recherchent d'abord avant tout, et ils ont l'obligation de par la loi, recherchent avant tout de savoir quelle est la volonté de la personne à protéger, quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre et quel est le régime le plus adapté à sa situation. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la volonté de la personne, quand elle peut encore l'exprimer et quand matériellement c'est possible de faire des choses qui sont conformes à ses souhaits, on en tient compte. Vous voyez, il y a tout un travail de fond.
Alors, finalement,
qui est réalisé.
au cas où, comme on dit, on a intérêt à laisser des témoignages de son au moment où on est en pleine forme. C'est une chose importante.
Oui, c'est très très important. Justement, à travers ce contexte de morbidité, j'y reviens. Non seulement il y a, je dirais, le préalable, c'est-à-dire on vieillit ou on peut décéder, comme on l'indiquait, on le rappelait tout à l'heure, beaucoup plus jeune. Mais je pense que même si ce sont des sujets que l'on évite, parce que la mort du vivant, c'est jamais la mort de celui qui est mort, et que en philosophie, je me rappelle, on m'avait appris que même si on pense à la mort, on pense encore avec la pensée du vivant. Donc oui, la mort, absolument. On la pense pas véritablement, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de s'imaginer mort et de prévoir tout, enfin, même si ce n'est pas tout, mais un certain nombre de choses, au moins pour ne pas que les choses ne soient pas totalement désarticulées au moment où l'on part. Parce que on n'a pas toujours la chance d'avoir des enfants ou des proches qui connaissent les dernières volontés. Et puis, tout dépend du patrimoine de la personne qui décède. Et puis aussi de ses souhaits par rapport, sur un plan purement religieux, intime. Quels sont ses souhaits? Est-ce que cette même personne veut être enterrée civilement? Est-ce qu'elle veut avoir des obsèques selon sa confession personnelle? Est-ce qu'elle veut avoir une inhumation dans un cercueil au cimetière? Est-ce qu'elle préfère être incinérée? Bref, vous voyez, des choses qui sont énormes. Qui paraissent un peu lointaines quand on en parle, quand on est bien vivant et que tout se passe bien. Et puis, le jour où on est confronté à cela pour soi-même, parce qu'on se dit qu'un jour ou l'autre, on va partir, et qu'on est confronté à cela par rapport à un proche, que ce soit proche de la famille ou même par rapport à une relation amicale, qui n'a pas de parents, par exemple, eh bien, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, et si la personne n'a pas eu le soin soit de faire un testament, soit de préparer en amont ce qu'on appelle maintenant les contrats obsèques, on en fait beaucoup la publicité à la télé, voilà. Bah, c'est vrai que ça paraît, à première vue comme ça, la première fois qu'on entend parler de ça, là aussi on retrouve cette notion de morbidité, on se dit mais bon, contrat obsèque, ça paraît lointain. Ben oui, parce qu'on veut pas mourir. On sait bien qu'on est mortel, mais on veut pas mourir. Enfin, quelqu'un de bien portant n'a pas envie de mourir. C'est quand les choses commencent à se dérégler qu'on pense vraiment à la mort et que l'âge avançant, peut-être qu'on a une maturité et qu'on est obligé de se résoudre à cette idée, même si on l'a pas totalement assimilée.
Je m'excuse de vous couper parce que on approche un petit peu de la fin de notre
entretien. Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire, donc voilà. On fait des digressions.
Je me demandais si il n'y avait pas, en fait, des tutelles sauvages, c'est-à-dire sans que aucun juge ne soit contacté, qu'il n'y ait pas des mis sous tutelle de personnes par leur famille, par leur...
Tutelle sauvage, c'est un terme, bien sûr.
C'est un terme à moi.
Un petit peu, voilà. Mais on peut songer au fait que, d'abord, toutes les personnes qui sont vieillissantes et qui ont des difficultés de santé sont pas toutes mises sous tutelle ou sous curatelle. Il faut quand même, à partir du moment où...
Ça reste presque marginal.
Marginal peut-être pas, mais en tout cas, c'est ponctuel. C'est pas quelque chose de systématique et automatique.
D'accord.
Mais s'il y a de la famille proche, effectivement, s'il y a des enfants, s'il y a quelqu'un qui peut continuer à aider la personne qui en a besoin, ça se fait. Mais c'est une fois que on voit vraiment qu'elle ne peut plus se gérer ou qu'il y a des choses importantes à décider, que les membres proches se décident à saisir un juge ou que malheureusement il y a la mise en établissement EHPAD ou autre, que les choses se précipitent.
Bien,
Mais alors, ce à quoi je pense vous faites allusion, c'est le législateur a prévu, notamment par une loi de 2002, la mise, on désigne quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. C'est-à-dire qu'on désigne quelqu'un pouvant être l'administrateur de ses biens au cas où l'on viendrait à ne plus pouvoir pourvoir à ses propres besoins, et on demande, hein, on désigne quelqu'un pouvant gérer au moins sur le plan administratif en ces lieux et places provisoirement les choses.
Hein. D'accord.
Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ces mesures, elles sont importantes. Hein, mais le juge des tutelles, à un moment ou à un autre, peut très bien, une fois qu'il a été saisi, décider que ce ne soit pas forcément la personne qui a été choisie ou désignée par l'intéressé, pas forcément cette personne qui sera chargée d'être nommée tuteur ou curateur. Mais on tient compte quand même, si vous voulez, de tout ce qui a pu être exprimé, de ce qui peut encore être exprimé le moment venu par la personne à protéger. En général.
D'accord.
En général.
En général. J'ai noté dans votre... vos phrases précédentes, le mot « avenir », ça c'est bien quand même. Eh bien, je vous remercie d'être passé par nos studios.
Merci.
Au revoir à tous.
Merci, au revoir.